Les médias, pour moi, c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclass.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Interclass, c'est jusqu'à 21h de Grigny à Créteil, de Sarcelles à Saint-Denis. Dans les collèges et les lycées, ils ont travaillé toute l'année à fabriquer des reportages. Nombreux sont les sujets qui ont retenu leur attention. La justice des mineurs, la place des femmes dans le BTP, le handicap, les robots ou encore l'art culinaire. Interclass, c'est varié, c'est sérieux, c'est léger, bref, c'est selon.
Interclass saison 4, c'est un truc de ouf.
Let's go
sur France Inter.
Ma mère, elle voulait pas que je rappe, du coup j'ai mis ma cagoule et je me suis dit, elle va pas me reconnaître. Et quand en fait elle a su que c'était moi, je voulais l'enlever, mais j'avais déjà sorti 3 clips qui marchaient super bien, ça faisait déjà un personnage, du coup mes proches m'ont dit, bah vas-y, autant la garder et continuer avec.
Et voilà, il l'a gardé, c'est un extrait d'un reportage qu'on entendra tout à l'heure, c'est Kalash Criminel qui parle. Il est rappeur et il se plaît à dire, mon style n'est pas violent, mais véridique et frontal. Ce soir, c'est la classe de seconde avenir du lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne qui est à l'honneur. Ils sont 20 autour de moi. Alors, plusieurs d'entre eux ont déjà pris place autour de la table du studio. Il y a Thomas, il y a Thibaut, il y a Emda, Yanis, accompagnés de deux de leurs professeurs et aussi, évidemment, des journalistes et producteurs de France Inter qui les ont accompagnés dans leur travail. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
L'égalité des sexes.
La liberté d'expression.
La colère.
Les gilets.
Le partage.
Vivre en France.
Vivre en France.
Vivre en France.
En 2019.
Ce soir, 4 sujets sont au programme. Kalash Criminel, je vous l'ai dit, a fait l'objet d'une interview, puis un reportage sur la cause animale, un autre sur l'hyperconnectivité, et pour finir, une chronique judiciaire construite comme un acte théâtral. C'est une petite surprise. 2 professeurs, je vous l'ai dit, de cette classe sont là, Véronique et Thibault. Bonsoir, je vais vous demander de vous présenter, madame et monsieur, s'il vous plaît.
Bonsoir, je suis Véronique Mélin, professeure documentaliste au lycée.
Thibaut.
Bonsoir, Thibaut Casmarek, professeur d'histoire géographie au lycée.
Alors, chacun des numéros d'interclasse commence par un bon lieu de vie. C'est une balade, une découverte, histoire de parler de Clichy-la-Garenne comme si on y était, Fanny Léonore Crozet.
Clichy, ville en devenir au sein du projet Grand Paris, se métamorphose aujourd'hui à coups de polémiques architecturales. Celle de l'installation, en avril 2018, balayant les réticences des avocats trop habitués à l'île de la Cité, du tribunal de grande instance, empilement imposant de 3 blocs vitrés signés Renzo Piano à la frontière parisienne. La polémique aussi de la rénovation de la Maison du Peuple de Clichy. Une construction de style moderne des années 30, elle est classée monument historique et aujourd'hui bien dégradée par le temps. À l'hiver 2017, l'architecte Rudy Ricciotti livre les premières images du projet. Une tour apparaît, 96 mètres de haut, au-dessus de l'ancienne structure. Elle est faite de béton et de verre. La tour de Ricciotti provoque aujourd'hui la colère des riverains. Ils demandent même l'arrêt du projet. Thomas, mon guide, me retrouve dans la vieille ville. C'est là qu'il a grandi et c'est le Clichy qu'il préfère.
Bonjour Thomas, ça va ?
Ça va très bien, merci. Je suis content d'être là, on va pouvoir présenter la ville de Clichy, montrer ce qu'est la ville de Clichy, c'est important.
On y va ?
Bien sûr. Mes parents ont déménagé ici quand j'avais 2 ans parce que c'était une ville en plein progrès, qui aussi une ville proche de Paris, c'est aussi important. Et,
pourquoi c'est important d'être proche de Paris ?
Parce que Paris c'est le centre de la France et c'est le centre de tout, c'est là où tout se passe à Clichy-la-Garenne. C'est aussi une ville qui devient importante car il y a le quai des Orfeux qui s'est installé à côté. Il y a aussi le tribunal de Paris, de grande instance, et c'est une ville qui prend de l'importance, c'est pour ça aussi.
Alors, donc là, on est à un endroit emblématique de Clichy, qui est la place des Martyrs. Oui. Pourquoi tu m'en es ici ?
Déjà, parce que c'est une place où, lors des fêtes de Noël, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des manèges pour les enfants, pour les Clichois. Il y a aussi des commerces qui s'ouvrent. D'ailleurs, le Café Garçon, qui est connu notamment pour être apparu dans un film de Yves Montand, c'est pour ça. Et aujourd'hui, il a été racheté, il est refait, il est à neuf. Et c'est pour ça que Clichy est une ville à devenir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y construisent, même à côté des lieux les plus emblématiques. Et surtout que aussi la place des Martyrs est pas loin de la mairie de Clichy.
Tu as choisi de me présenter quelqu'un aujourd'hui.
Oui, Yacine, un ami que je connais depuis longtemps, un bon ami et qui habite aussi depuis longtemps à Clichy, c'est pour ça. Ça va, tranquille ?
Ouais, tranquille, toi ?
Ouais, ça va, merci.
Thomas, je le connais depuis la quatrième, non, mais la cinquième aussi. Ouais. On est presque des meilleurs amis, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous faites ensemble alors ?
On fait quasi tout, si vous voulez. Quand il y a des vacances, on sort entre amis, puis même à la maison. Quand on joue, on est connecté à Internet, si vous voulez, donc par les réseaux sociaux, par la console, tout en fait.
Quelle importance a une relation amicale comme vous l'avez pour une génération qui communique beaucoup par le numérique ?
d'avoir des passions en commun et de pouvoir se voir en vrai. C'est surtout ça qui fait qu'on reste amis, c'est qu'on se voit souvent dans la vraie vie, on partage des choses, on va au cinéma, rien que d'aller dans Paris ou de se promener dans Clichy, c'est le fait de pouvoir entretenir une relation en vrai, réelle.
Parce que moi je suis d'accord avec lui, parce que malheureusement je pense, en général, quand on a une relation 100% fictive, grâce aux réseaux sociaux avec quelqu'un, ça va forcément finir à un moment, à moins qu'il y ait une rencontre réelle, on va arrêter de se parler. Je privilégie les gens que je connais en vrai, et je pense que c'est normal.
Tranquille. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Merci pour cette jolie balade, t'as des très jolis mots je trouve, pour parler de ta ville que tu aimes visiblement.
Oui, c'est une ville que j'aime énormément parce que j'y ai grandi jusqu'à mes 15 ans aujourd'hui quoi. Et c'est vraiment une ville que j'ai vu grandir, que j'ai vu progresser en même temps que moi, et c'est ça que j'aime dans cette ville.
Alors il y a une chose que tu dis qui m'a frappée quand tu dis, bon c'est proche de Paris, ça on le sait, mais que c'est le centre de tout Paris. Mais si tu dis ça à des gens qui habitent dans les régions, on dit, autrefois on disait en province, ils vont pas être contents si tu leur dis ça.
Bah, je dis ça parce que quand même Paris c'est la capitale de la France, ouais. Et à l'étranger on est connu pour Paris aussi également, mais il est vrai que Paris c'est pas non plus la ville la plus importante, mais c'est quand même le centre de la France.
Et toi Thibault, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous tutoie tous, est-ce que vous m'autorisez à le faire?
Oui bien sûr.
Bon d'accord, alors Thibault, où est-ce que tu vas te promener toi?
Oh généralement je me promène aux alentours de chez moi, quand par exemple chez des amis, j'aime bien me balader aussi dans les alentours et prendre un peu le chemin le plus long pour y arriver.
Ah ça, c'est sympa, donc à pied.
Oui. Ou parfois même, c'est moi-même qui m'imagine des chemins pour arriver dans ces lieux. Et puis surtout, se balader, je préfère aller par exemple dans des parcs et faire le tour.
T'aimes bien la nature?
Oui.
Interclasse.
C'est de la bombe
sur France Inter.
Un groupe de votre classe, que des garçons, 6 au total, tous passionnés par le rap, a choisi de travailler sur la liberté d'expression. Calage criminel, le rappeur est en la matière un cas d'école. Il vient de Sevran, en Seine-Saint-Denis, il a signé sur un label d'Universal. Une de ses chansons s'intitule Cougar Gang, il y est question des hommes qui aiment les femmes plus âgées qu'eux, suivez mon regard. C'est le cas de notre président de la République. Calage criminel fait explicitement référence à Brigitte Macron, sa femme, dans un morceau qui a été retiré depuis de l'album, même s'il est toujours sur Internet. On écoute le reportage et après, bien, vous apporterez vos commentaires.
Le 13 novembre 2018, Calage criminel annonce la suppression de son titre Cougar Gang sur son compte Twitter.
Dans cette chanson, le rappeur de 25 ans énonce des propos vulgaires à propos de la femme du président Brigitte Macron.
Je suis bon qu'à niquer des mères. Ouais, je suis bon qu'à niquer des mères. Ouais, je suis bon qu'à niquer des mères. Ouais, je suis bon qu'à niquer des mères. Je baisse que des mères comme Macron. Cougar, je baisse que des mères comme Macron. Cougar, je baisse que des mères comme Macron.
Nous nous sommes rendus sur la place des martyrs à Clichy-la-Garenne pour interviewer des passants et écouter leur avis sur les paroles du rappeur Calage criminel. Pour ce jeune homme d'une trentaine d'années, cette affaire soulève la question de la liberté d'expression.
Ah oui, donc ça on touche à la liberté d'expression. La liberté, après, la liberté c'est quelque chose de très intéressant, mais parfois je pense qu'il faut des bornes aussi. C'est comme dans l'éducation d'un enfant ou quoi que ce soit, il faut le laisser libre, mais parfois il y a des limites. Donc les limites peuvent être dites arbitraires par ceux qui les subissent, mais oui, je pense qu'on ne peut pas tout dire.
Et cette dame un peu plus âgée qui se promène sur la place, que pense-t-elle?
Je suis incapable de vous dire ce qu'ils ont dit, mais ça reflète une certaine... ce que des jeunes vivent, je pense, dans certaines cités. Mais pour nous, pour moi, personnellement, c'est pas toujours facile à comprendre. Mais alors, pour vous dire quand même, je suis pas... ça m'intéresse quand même. Hein. Dimanche dernier, je suis allée au Théâtre de la Gomune voir un spectacle d'une femme rappeuse et d'une autre femme qui faisait du hip-hop.
Le studio de Calage criminel se trouve dans le 20e arrondissement de Paris. Le rappeur nous a accueillis avec le sourire.
Bonjour, je m'appelle Calage criminel, j'habite à Sevran et j'ai 15 ans.
Calage criminel porte une cagoule comme dans ses clips et pochettes d'albums.
Pourquoi tu mets ta cagoule? C'est à propos de ton albinos ou...
Non, même pas en fait. Moi, quand j'ai commencé à rapper, en fait, ma mère, elle voulait pas que je rappe. Du coup, j'ai mis ma cagoule et je me suis dit, elle va pas me reconnaître. Et c'est pour ça, en fait, j'ai mis ma cagoule et tout. Et quand, en fait, elle a su que c'était moi, je voulais l'enlever. Mais j'avais déjà sorti Sauvagerie 2 qui marchait super bien. J'avais déjà sorti 3 clips qui marchaient super bien. Ça faisait déjà un personnage. Du coup, mes proches m'ont dit, bah vas-y, autant la garder et continuer avec. Sinon, je l'aurais enlevé. Mais après, comme ça faisait déjà un personnage et on avait déjà bien avancé avec la cagoule, j'ai dit du coup, je la garde. Juste pour ça.
Un jour, t'enlèveras ta cagoule.
Ouais, je pense, ouais. C'est prévu normalement, après, je sais pas quand.
Comment tu trouves tes punchs? Parce qu'elles sont... Elles sont sales, elles sont énervées.
Je te dis la vérité. En vrai, les meilleurs punchs, je les trouve sous la douche.
Oh.
Ouais, sous la douche, c'est les... mes meilleurs punchlines, c'est sous la douche. Et quand je me douche, je sais pas, ça vient comme ça d'un coup. Je dis, ah ouais, celle-là, elle est pas mal. Tout le monde dit, ouais, Kalash Criminel, il a des punchs et tout, il a des punchs et tout. Du coup, là, dans l'album, on a essayé d'innover avec des flows aussi. Et associer les deux, ça peut être bien. D'ailleurs, je vais écrire un livre dessus, je pense.
Quelle a été ta réaction lorsque tu as su que le son Cougar Gang a été retiré de l'album? Tu t'y attendais?
Non, franchement, non. Et j'étais super énervé. Hein. Ah ouais, j'étais super, super énervé. Après, c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça fait un buzz de fou. Tout le monde en a parlé, même pas qu'en France, partout, partout. Et c'était, on va dire, c'était un mal pour un bien. Mais j'ai pas... J'étais super énervé, ouais. Parce qu'en fait, on m'a dit à la veille que... Ouais, le clip il devait sortir vendredi, c'est jeudi qu'on m'a annoncé comme quoi, et même le clip ne devait pas sortir, même le morceau. Du coup, on a quand même sorti le morceau et le clip. Mais ouais, j'étais vraiment énervé. Ouais. Après, moi, je pensais pas que ça allait aller aussi loin, parce que c'est plutôt ironique, le morceau. Après, voilà, c'est comme ça. Mais moi, je pense que si je serais allé en justice, j'aurais gagné.
D'après le conseiller de Brigitte Macron, c'est le label Universal qui a eu peur de la réaction de l'Élysée, donc ils ont retiré le titre de l'album. Un reportage de Ilyes Fares, Loïc Mbomba, Anthony Banakissa, Ridoy Barois, Soel Neitzerad, Idrissa Touré.
Avec Laurence Perron, car c'est avec elle que vous avez travaillé. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
C'est parti comment ce sujet? C'est parti déjà de la liberté d'expression et ensuite
On s'est rencontrés une première fois et on a décidé ensemble de quel sujet on allait faire. Et donc, je les rencontre, Ilyes, Loïc, Idrissa, et ils me disent « Ah, nous, on voudrait travailler sur le foot ». Et surtout, ils veulent rencontrer les joueurs de l'équipe de France.
Et ça vous branchait pas, ça, Laurence?
C'est pas ça, c'est que je me suis dit « C'est impossible ». Donc, on est parti sur le rap et Ilyes, on s'est dit « Ce serait bien de faire Kalash Criminel ». Et donc, c'est là où c'est génial avec ses élèves et ses profs de Clichy, c'est qu'on dit ça, et là, en... Une journée, tout se met en branle, et là, pof, on est le soir, dans le 20e, dans le studio de Kalash Criminel. Et on a fait pareil, parce que finalement, on a réussi à faire un truc de foot, en réalité. On a rencontré Benjamin Pavard, et ça s'est fait comme ça. Aussi, en une journée, on l'apprend en 12 heures, ça y est, tout d'un coup, on est à Clairefontaine avec le groupe. Nous, on est juste là pour faire l'espèce de trait d'union entre les deux, et ça fonctionne super bien.
Bah oui, apparemment, oui, d'après le résultat, en tout cas. Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même intimidant, non? Et ces studios, vous êtes allé dans son studio? Enfin, c'est grand comment? Ça ressemble à quoi, Loïc?
Le studio, quand on est dehors, il est bien caché, on dirait un bâtiment où il y a des personnes qui y vivent. Il y a deux étages, et quand on est rentré à l'intérieur, il y avait du monde. C'était tous ses amis, je pense. Et les personnes avec qui il travaillait aussi. Après, il est venu, on s'est installé dans une salle, il s'est assis, on s'est assis, et après, on a commencé à poser des questions. Et j'ai vu son manager aussi, il était gentil, tout s'est bien passé.
Ouais. Et sur, le côté de la liberté d'expression dont vous parlez, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il y ait des limites à la liberté d'expression? Est-ce qu'on peut tout dire?
Pas tout, mais...
Est-ce que tu penses, par exemple, que la femme du président de la République, mais quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être une femme en général, qui que ce soit, puisse être peinée, choquée d'entendre que bon, bah voilà, on la stigmatise un peu à cause de son âge? Ilyes?
C'est normal que ça choque. Mais après, chacun fait ce qu'il veut.
Ça vous plaît, le rap? Vous trouvez qu'il se dit des choses intéressantes chez les rappeurs? Loïc? Ouais.
Surtout qu'à l'âge criminel, lui, parce que lui, il parle de beaucoup de problèmes. Un petit peu tout ce qui se passe au Congo, son pays.
Oui, parce qu'il est originaire du Congo. Et il y a une chanson justement que vous avez choisie, qu'apparemment vous devez écouter souvent, c'est ça le sonorité. Est-ce que tu peux, quand il dit par exemple « Je sais que les médias font semblant de ne pas savoir qu'au Congo, il se passe un génocide ».
Ah là, il parle du génocide qui se passe au Nord Kivu, je pense. Il y a eu plus d'un million de morts et il est énervé en fait. Il aime pas qu'on mette ça sous silence radio en fait, c'est ça.
Mais ça vous intéresse la politique comme ça? C'est politique ça comme sujet, non?
Oui.
Bon, vous avez hâte qu'on l'entende?
Oui.
Ouais, alors allons-y.
Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïroi sauvage, 243 comme Yannick Bolassie. On perd pas à l'extérieur, on perd pas domicile. Volontaire et l'homicide.
Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas en featuring, réponse négative. Ramène-nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et Fayad offensif. Tous mes sauvages sont dangereux.
Ah ouais?
Tous mes sauvages sont très agressifs. Traite des mères sur internet.
Ah ouais?
En face tu finis, un soin intensif. Qui vivra verra, toujours un crâne zéra. Faut même pas me terra, mes gars sur le terrain. Bah les couilles de ta vie, c'est que tu peuras. Je rappe mieux que toi et t'as la jura. 4-0-23-2-7-0. Rapide, efficace comme Kuna, Wero. Y'a pas de je t'aime, pas tes Kiro. Comme lui, Suarez, El Pisto, Mero. Sous-estimé? Ils savent très bien que je suis le meilleur. Quand la calasse tire, personne n'arrête la balle, même Manuel Neuer. Tu te fais piétiner, tes potes ont couru, tu me parles de solidarité. À ce fond de la classe, fini diplômé, je suis content de ma scolarité. Crois pas que tu fais du rap par corps parce que t'es rempli de vulgarité. Sache que tout ce qui m'arrive c'est mérité. Les enfants et les poucaves disent la vérité. Sale est la sonorité. Choqué de la brutalité. Tout niquer notre mentalité. Faire monter le taux de mortalité. Sale est la sonorité. Dirigé par des dictateurs, c'est normal qu'on parle qu'avec autorité. Mais Sauvage et moi, on met des pénalties à tous nos adversaires. Pourtant, on a tous arrêté le foot. Sache que on peut te refroidir, même si t'es tous les jours dans le four.
Sauvagerie.
Sale est la sonorité.
Sauvagerie.
Choqué de la brutalité. Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. Ils font les fous à la cité. Au comico, ça bave comme des crapauds.
Sauvage, sauvage.
Ils veulent tous rapper, n'assument pas leurs propos. J'suis avec Solomite, tout qui est popo. Ils font les fous à la cité. Au comico, ça bave comme des crapauds.
Arrête de jurer sur la vie de ta mère, t'es qu'une salope. On sait que tu vas rien faire. J'ai la haine depuis petit, encore plus depuis que j'ai perdu mon grand frère.
Sale est la sonorité, choqué de la brutalité, tout niquer notre mentalité, faire monter le taux de mortalité. Sale est la sonorité, pas le même niveau, pas de rivalité. On a de la frappe de très bonne qualité, à ce franc street est la réalité.
Voilà, donc c'était Kalash Criminel, Sale Sonorité, sorti en 2016. Et ça a fait plus d'un million de vues. Voilà, donc comme on a entendu, il a dit beaucoup de choses intéressantes.
Ça cogne, hein, ces paroles.
Oui, oui, oui. Ouais.
Et pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, sur la liberté d'expression, Thomas et Zeina, vous n'avez pas travaillé sur ce sujet-là, avec ce groupe-là, mais vous avez certainement quand même un avis à nous donner. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites à la liberté d'expression ? Zeina.
Bah moi je pense qu'on est libre en fait de dire ce qu'on pense. Après, certes ça peut blesser des gens et ça peut les toucher, mais je pense que ouais, on peut dire ce qu'on pense. Parce qu'il y a certains pays où on peut pas dire ce qu'on pense aux peines de prison ou aux peines de mort.
Et toi Thomas, sur la liberté d'expression ?
Bah je pense à peu près pareil que Zeina. Enfin, on est quand même dans le pays des droits de l'homme et je pense que il n'y a pas de limite, en tout cas en France, même si il y a des événements qui ont essayé de nous montrer l'inverse. Quand ça touche pas en mal quelqu'un, je pense qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression. Et c'est important dans un pays qui est la liberté d'expression. Elle est présente en France.
Et sur le droit de vote, puisque tu parles de la chance qu'on a dans certains pays, et notamment en France, est-ce que c'est important d'aller voter ? Est-ce que c'est une forme de liberté aussi ?
Je pense que ça dépend en fait de quel point de vue on le voit. Mais c'est, en France, c'est considéré comme un droit et non un devoir. Par exemple, en Belgique, c'est un devoir, c'est selon les pays et selon leur histoire aussi.
Tu penses que c'est mieux que ce soit un droit ou un devoir ?
Je pense que c'est mieux que ce soit un droit, parce que si on pense ne pas être représenté ou qu'on vote pour quelqu'un, finalement, qu'on ne souhaite pas au pouvoir, eh bien après, forcément, sur ses décisions, on ne sera pas d'accord avec lui et ça risque de poser problème.
Et toi, Zeina ?
Bah, moi, je pense que c'est un droit, même si c'est un devoir aussi, parce qu'il y a quand même des personnes qui se sont battues pour qu'on puisse voter. Donc, les deux.
Interclasse
sur France Inter.
Deuxième reportage sur la défense de la cause animale. Emmanuel Kerrat, qui a dirigé ce groupe, m'a glissé à l'oreille que ce sont les filles qui ont motivé les garçons pour parler de ce sujet. Alors bravo les filles. Protection des animaux mais aussi les véganes et des avis très différents comme on va l'entendre.
Nous avons choisi de vous parler des militants pour la cause animale en 2019. Nous sommes allés au cœur de Paris, place Saint-Michel, rencontrer Hugo de l'association L214.
Partagez-vous les agissements des véganes extrémistes, tels que la vandalisation?
La vérité, c'est que quand L214 diffuse une vidéo, la question centrale dans la presse le lendemain, c'est « Ok, qu'est-ce qu'on fait aux animaux dans notre consommation et quelles sont les conséquences de notre consommation ?» Alors que quand des militants qui aissent une boucherie, par exemple, ou volent des animaux, on focalise le discours sur la vitrine. On focalise le discours sur la boucherie et pas du tout sur les animaux. La question est de savoir si c'est efficace. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser aujourd'hui qu'au vu des retours presse, c'est pas efficace, en fait. Et c'est en ce sens que nous, on essaie de dénoncer un système. On pense que caillasser des boucheries, ça dénonce pas un système, mais ça dénonce des individus, et en ça, c'est pas efficace non plus.
Paul Ariès est politologue. Il dénonce le véganisme et les militants extrémistes dans un livre paru chez Larousse.
Bonjour Paul Ariès.
Bonjour.
Selon vous, les végans agissent-ils de la bonne manière?
Alors les végans sont efficaces parce qu'ils arrivent effectivement à culpabiliser les gens. Mais ce que l'on voit, c'est qu'ils agressent systématiquement les éleveurs, les bouchers, les restaurateurs, les forains. Rien ne justifie l'utilisation de la violence dans la société.
Pourquoi, selon vous, les végans ont-ils tout faux?
Ils ont tout faux parce qu'ils accusent les gens qui mangent de la viande, ceux qui portent des pulls en laine ou des chaussures en cuir, d'être responsables de la faim dans le monde, d'être responsables du réchauffement climatique, d'être responsables de la crise sur l'eau potable et de faire souffrir les animaux, alors qu'on sait que l'agriculture tue en réalité 25 fois plus d'animaux que l'élevage, mais ce ne sont pas les mêmes. Et l'animal le plus en danger aujourd'hui, à l'échelle planétaire, c'est le ver de terre. Or, notre agriculture, à base d'engrais, d'insecticides, tue les vers de terre qui ont une fonction essentielle. Ils font des petits tunnels dans la terre, ils l'aèrent et ils permettent d'avoir une terre qui est vivante.
Chez L214, les véganes affirment pouvoir se passer de tous les aliments d'origine animale en restant en bonne santé.
Alors il y a 2 ans, oui, je suis devenu végane avec ma femme et c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions quant à la santé. Est-ce qu'on n'a pas des carences? Est-ce qu'on va pas avoir des carences? Et finalement, j'ai fait des prises de sang assez régulièrement et je me suis aperçu au bout de 2 ans que j'avais des résultats vraiment sanguins très très bons. Et vraiment, moi aussi, c'était une inquiétude, vraiment. C'est pas pour prôner le véganisme, mais c'est vrai que depuis, je me suis dit qu'on est beaucoup plus en forme, quoi.
Dans plusieurs villes de France, des actions sont menées par des associations pour alerter sur la maltraitance animale.
Alors, qui est un tract, s'il vous plaît?
Dans les rues de Paris, L214 a milité contre la souffrance des poissons, victimes de la pêche industrielle.
Nous sommes allés sur place recueillir les impressions du public.
Alors, donc, je réexplique le principe de l'action. On a 8 panneaux qui vont être en ligne. Le principe, c'est que l'action dure 4 heures. C'est le maximum du temps d'asphyxie d'un poisson jusqu'à ce qu'il perde totalement sa sensibilité.
Il y a les océans qui se vident. En 2050, il y aura peut-être plus d'animaux marins dans les océans. Donc on est là pour dénoncer cela. Voilà.
Écoutez, je trouve que c'est une saine réaction dans la société actuelle. Mais je pense qu'en même temps, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il y a des types d'élevage qui sont respectueux aussi de l'animal. Et voilà, j'y suis attachée aussi.
Moi, j'aime bien le thon rouge.
Toi, tu manges des crevettes. C'est pas mal de sensibiliser à ces questions-là. Voilà, après, ça va pas m'empêcher d'arrêter de manger du poisson un peu, même si j'en mange pas des masses. Ça va pas empêcher les enfants d'en manger non plus, mais tout de suite maintenant, c'est un peu compliqué.
Moi, j'ai grandi sur un bateau, j'ai grandi au milieu des poissons, et du coup, effectivement, enfin, je sais pas, c'est les poulpes, c'est mes amis, quoi. Voilà. Et effectivement, c'est des animaux qui sont sensibles, et comme nous, en fait, et enfin, en plus, c'est un truc qu'on n'y pense pas, en fait. Genre, je vois plein de gens, ils disent qu'ils sont végétariens, ils mangent du poisson. Et en fait, on considère que c'est des animaux qui sont en dessous des autres, un petit peu, quoi. Et en fait, effectivement, c'est pas le cas, quoi. Voilà.
Un reportage réalisé par Clara Compère, Solène Lefebvre, Marius Huiraud, Mathis Voisin, Thomas Nérault, Thibaut Kersadjian, Maya Guichawa avec l'aide d'Emmanuel Kérad.
Et Maya, c'est toi.
Oui.
Bonsoir Emmanuel Kérad.
Bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
En pleine forme. Bon, dès que je suis interclasse, je suis en pleine forme.
Vous êtes aguerri parce que c'est depuis le début que vous participez à
interclasse. Exactement, ça fait 5 ans maintenant, quasiment.
Ça va faire 5 ans prochaine saison.
C'est formidable, ils sont extraordinaires.
Alors comment est-ce que vous avez choisi ce sujet? Je disais tout à l'heure que c'est plutôt les filles qui ont poussé les garçons à le faire.
J'étais un peu étonné effectivement qu'ils choisissent la cause animale. Je me suis dit tiens, on va faire L214 à tous les coups, ça va pas louper. Et donc c'est vrai que ce sont les filles qui ont décidé, avec Clara, qui est très sensible à la cause et qui a motivé ses camarades. Et les garçons, ils sont allés, mais très volontiers. Moi, j'ai été étonné aussi parce qu'entre calage criminel, des joueurs de foot ou d'autres sujets un petit peu plus sexy, on va dire, ils ont choisi la cause animale sans aucun problème. Et ça, voilà, il faut les saluer aussi pour ça parce qu'ils l'ont fait de façon très professionnelle.
Alors Maya, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur, ça?
Alors déjà parce que j'adore les animaux
et parce que j'ai appris par plusieurs magazines ou plusieurs sites internet qu'il y avait beaucoup d'animaux qu'on tuait. Par exemple, dans les abattoirs, c'est horrible comment on abat les animaux. Et du coup, ça me touche beaucoup, en fait.
Est-ce que vous comprenez les actions des véganes ?
Moi, je pense que les véganes, après, ils décident de ne plus manger de viande. Donc, c'est leur choix. Après, je ne peux pas dire si je suis pour ou contre. Parce que moi, je sais que je ne pourrais pas être végane. Ce n'est pas possible. Parce que même si j'aime les animaux, par exemple, le lapin, c'est sûr, je ne vais pas le manger.
Tu ne manges pas de lapin ?
Non.
Tu es comme moi.
Moi non plus, j'arrive pas à manger. Je peux manger du vin de la vache, de l'agneau encore, non.
Mais, on se ressent vraiment.
Parce que le lapin, je me dis, oh, il était tout mignon et tout. Et après, il est dans mon assiette, il y a des cuisses. Enfin, non, c'est pas possible pour moi.
Et est-ce que vous avez la même réaction, par exemple, avec le poisson ? C'est vrai qu'on est, quelquefois, on a plus de. Comme il a un statut un peu inférieur. Le poisson, le pauvre poisson.
Et c'est l'action des L214, d'ailleurs, hein, sur le reportage qu'on a entendu. Les poissons, c'est difficile d'attirer l'attention du public. Et puis, il y a des personnes qui ne comprennent pas trop pourquoi on défend les poissons.
Oui, et il y en a une, par exemple, dans le reportage, qui dit « Les poulpes sont mes amis
oui. ».
Alors, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis poulpes. Est-ce que vous avez des copains poulpes ?
Non.
Thomas, Mathis, on ne t'a pas entendu encore sur ce sujet. Tu manges de la viande ?
Oui.
Beaucoup ?
Oui. Plein.
Tous les jours ?
Ah, j'adore.
De la viande rouge, de la viande blanche ?
Vraiment tout.
Marius ?
Pour moi, c'est pareil. J'adore la viande et je pourrais pas m'en passer.
Pareil.
Même avec le reportage qu'on a fait...
Ça change pas.
Non,
ça pas change rien ?
Non, ouais, du tout.
C'est vraiment trop bon, quoi.
Oui, c'est trop bon, mais ça vous pose pas un problème quand même de savoir qu'il y a un animal qui a été maltraité dans un abattoir alors que c'était pas nécessaire, qu'on aurait pu l'abattre autrement ?
Si, bien sûr. Mais après, on peut acheter aussi des animaux qui sont pas maltraités quand... Moi, j'achète quand c'est élevé en plein air. Enfin,
donc,
moi, j'achète. Ma mère.
Ta mère. Oui. Mais donc, en général, c'est plus cher.
Je sais pas.
Bah, oui.
C'est pas moi qui vais acheter, mais oui, logiquement, oui.
Est-ce que vous avez déjà vu, parce qu'on dit toujours que les jeunes, maintenant, savent pas ce que c'est qu'un poisson et qu'ils ont l'impression que c'est le truc pané qu'ils ont en face d'eux. Vous avez déjà vu des animaux en vrai, Yanis ?
Oui, quand même.
Oui, j'en ai déjà vu, au zoo.
Mais ça, c'est pas les animaux que tu manges, ceux que tu vois au zoo.
Non. On est vu en poissonnerie. On a aussi dans les films.
Et ça t'inspire quoi ? Est-ce que tu trouves ça beau, une vache ? Est-ce que ça peut être beau ?
Bah.
Mathis, c'est beau ou c'est pas beau, une vache ?
Bah, ça dépend du point de vue. Moi, je trouve pas ça beau. Bah, faut dire cash. Bah, ça peut. Enfin, ça dépend. Il y en a des belles, il y en a des pas très belles. C'est comme tout, quoi.
Khalid sur France Inter, Talk.
Something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost and be our thoughts. Can't get what we know without. If I'm moving too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming. I'm what you want.
so stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about now? Too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing.
C'était un titre de Khalid, Talk, sorti en 2019.
Interclasse.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Troisième reportage d'Interclasse avec ce soir des élèves de Clichy, la Garenne. Ils sont en seconde à venir et le groupe d'Alexandra Hakoun, ces petits chouchous, comme elle les appelle, cinq adolescents, bah oui, c'est ce que vous me l'avez écrit, cinq adolescents qui ne sont pas différents de leurs comparses, ils passent leur vie sur leur smartphone. Et comme ils ont de l'humour, ils ont décidé d'aller creuser cette problématique bien de leur époque, les jeunes et l'hyperconnectivité.
Chez nous, si quelqu'un touche à son cellulaire quand on est en famille, il doit apprendre un mot dans une nouvelle langue.
N'avez-vous jamais entendu vos parents vous dire d'arrêter d'être sur votre téléphone ? Selon l'Académie des technologies, 89% des Français de 13 à 19 ans possèdent un smartphone et 60% d'entre eux ne l'éteignent jamais.
Avec quelles conséquences sur leur comportement et la santé ? C'est la question qu'on nous a posée dans les rues de Clichy-la-Garenne.
Que pensez-vous des jeunes hyperconnectés ?
La communication, elle n'est plus là avec les plus jeunes parce que ils sont toujours connectés à leur téléphone, que ce soit à table, dans la rue, partout, il n'y a plus de communication.
Je crois que tout le monde est hyperconnecté aujourd'hui. On est tous un peu accro à nos téléphones, à nos écrans. Ça nous apporte l'amitié, on peut parler avec nos amis, notre famille, mais aussi ça vole quelque part notre temps.
Les jeunes sont plus autonomes, on n'est pas obligé d'être derrière eux. Du coup, grâce aux tablettes, ils peuvent apprendre de nombreuses choses que nous, on ne pouvait pas leur apprendre.
On ne lit plus de livres et le sommeil, ça ne va plus. On est toujours sur Internet.
Alors, stéréotype ou réalité ? Pour le savoir, nous avons d'abord été reçus par Serge Tisseron, psychiatre et membre de l'Académie des technologies, hyperconnectivité, réseaux sociaux. Est-ce si terrible, docteur ?
Un bon usage des réseaux sociaux, c'est on le prend un petit peu comme une manière de prolonger la cour de récréation. Hein, on potine, on échange des informations. Voilà, limiter le nombre de messages qu'on envoie et surtout limiter le temps qu'on y passe.
Quelles sont les conséquences sur leur cerveau ?
Pour vous dire les choses simplement, on n'en sait rien. Il n'existe qu'une seule étude et elle prouve rien en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que pour une bonne construction de l'identité, de la personnalité, un bon fonctionnement cérébral, ce qui est important, c'est la règle de l'alternance. C'est comme la nourriture. Le cerveau se nourrit de la multiplicité des activités et surtout de la multiplicité des rencontres.
Et sur la santé, ça donne quoi ?
Le problème principal, c'est en fait le problème du sommeil. C'est-à-dire, dès que vous avez votre téléphone mobile dans votre chambre, c'est la catastrophe. Vous êtes tenté d'interagir avec des copains, du coup vous dormez moins, et si vous dormez moins, ben après c'est un enchaînement, problème de moindre disponibilité à tout ce qui se passe dans la journée, problème d'agressivité possible, problème de mal se nourrir, problème de résultats scolaires, et là aussi c'est un cercle vicieux. Donc, quel que soit votre usage, veillez surtout à garder vos 8 heures minimum de sommeil par nuit. Ça vous assurera d'être bien dans vos baskets.
William Laffer est professeur d'anglais. À 30 ans, il est aussi une star des réseaux sociaux. 256 000 fans sur Facebook. Sous le pseudonyme de Monsieur le Prof, il raconte avec humour son quotidien d'enseignant dans un lycée des Yvelines. Et avec ses élèves qui se jettent sur leur téléphone dès la fin du cours. Il s'est livré à une petite expérience.
Le lundi, je suis arrivé en cours en leur disant « Toi, ce week-end, t'as fait ça. Toi, je sais que t'aimes bien ce genre d'aliments, etc. » Parce que ils avaient mis des photos en public sur leur compte. Ils n'avaient pas caché leur nom ou quoi que ce soit. Donc, on pouvait avoir énormément d'informations sur eux. Donc, le fait de leur montrer comme ça tout ce qu'on pouvait dénicher à leur compte, à leur sujet, ça les avait un petit peu angoissés.
Auriez-vous aimé disposer de ces outils lorsque vous aviez l'âge de vos élèves ?
Absolument pas. Je suis très content de ne pas avoir eu les réseaux sociaux à mon époque parce que tout ce qu'on met reste. Et parfois, quand on est ado, on a le droit à l'erreur, on peut faire des bêtises. Mais le problème, c'est que si on fait une erreur sur Internet, elle y sera peut-être pour toujours. Et on pourra nous la ressortir dans 5 ans, dans 10 ans. Et je trouve ça assez violent.
Pourtant, il en convient, Internet peut être un outil pédagogique formidable. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont tendance à démultiplier la violence.
Quand j'étais suivi par 100 personnes, c'était des discussions à taille humaine. Maintenant, je suis suivi par 400 000 personnes sur Twitter, ce qui est beaucoup trop. Et donc, les gens ne me considèrent plus comme une personne, ils me considèrent comme un concept. Et donc, ils s'adressent à moi parfois de façon très violente, agressive, vulgaire.
Et parfois, cette violence sort du cadre des réseaux sociaux, pas toujours facile à encaisser.
J'ai déjà reçu des courriers de menaces. avec une photographie du collège où j'enseignais à l'époque, avec écrit juste « on va te faire virer ». Il y a le personnage, monsieur le prof, qui fait des blagues, mais cette menace, elle était à mon encontre. C'est dur au début, quand on se prend ça au visage, c'est moi qu'on voulait faire virer.
C'était un reportage de Yanis Menour.
Veidei Matale.
Emda Sukuna. Malikan.
Adrien Pierrot.
Sous la conduite d'Alexandra Akoun. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Patricia.
C'était le baptême de l'air pour vous cette année, c'était la première année.
Complètement, ouais. C'était la première année et c'était passionnant.
Et c'était passionnant, et c'était oui. Passionnant. Alors vos chouchous ont bien travaillé. C'est quand même un gros sujet pour les jeunes de leur âge, non ? L'hyperconnectivité et c'est...
Oui,
on
mais
alors... entend le reproche qu'il aurait fait.
Oui, oui, et ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'en fait, c'est eux qui ont choisi ce sujet, c'est eux qui se sont emparés de cette problématique, et c'était important, parce qu'il fallait, pour qu'ils soient pleinement impliqués dans le sujet, que ce soit leur idée. Mmh. Et puis c'est eux qui ont eu l'idée d'interviewer et un médecin, et un prof, et voilà, en fait, ça s'est fait petit à petit en apprenant à mettre un pied devant l'autre.
Adrien, la question qui se pose, c'est pas est-ce que tu utilises beaucoup ton smartphone, mais est-ce que tu l'éteins de temps en temps, allez, une minute tous les 8 jours?
Oui, oui, j'éteins de temps en temps, mais c'est vrai que quand on est sur nos téléphones, on a tendance à y rester, parce que avec toutes les notifications qu'on reçoit, en fait, c'est ça. Et en fait, ils veulent nous rester sur le téléphone le plus longtemps possible.
T'es comme hypnotisé une fois que tu
y es ? Oui, voilà, on est hypnotisé et on reste dans un cercle. Le soir, quand je me couche, je pars souvent avec mes amis, on discute de ce qu'on va faire demain, ce genre de choses, mais il est toujours à côté de moi.
Emda, toi, quel usage tu fais de ton téléphone ?
Je fais quand même un usage excessif.
Tu trouves téléphone. Que c'est excessif ?
Oui, parce que je ne m'impose pas de règles, en fait.
Et est-ce que tu penses que ça te fait perdre peut-être des relations autres que tu pourrais avoir ?
Non, parce que quand je suis sur mon téléphone, la plupart du temps, je parle avec des personnes que je connais dans la vie réelle. Et du coup, ça ne change aucune relation dans l'entourage. Parce que par message, on est plus direct, plus sincère que dans la vie réelle.
Alors toi, si j'ai bien compris, c'est 24/24. Donc au lit, inutile de te demander, tu l'as à côté de toi.
Oui.
Et ça t'empêche pas de dormir ?
Si.
Comment est-ce que tu arrives à décrocher en disant « maintenant, il faut que je dorme » ?
J'attends surtout le moment d'être fatiguée, en fait.
Tu veux dire de tomber de sommeil ?
Oui, voilà. Et à ce moment-là, je le pose.
Et est-ce que tu as une idée du nombre d'heures que tu dors par nuit ?
Peut-être 4 heures, un peu moins.
T'as jamais sommeil dans la journée ?
Non. Enfin, si, parfois quand même, si, mais...
Tu somnoles un peu. Et en cours, le matin, t'es bien réveillée ?
Non.
Et toi, Thomas, est-ce que tu aimerais bien que le lundi matin, Véronique Mélin ou Thibaut Casmarek, qu'on a entendu tout à l'heure, ils vous disent « bah tiens, je sais, t'étais à tel endroit, t'as fait tel truc, t'as pensé telle chose ».
Non, pas du tout, parce que je pense que le lycée déjà et la vie qu'on a en dehors, c'est complètement différent. La personne peut varier, la personnalité peut varier, alors le fait que mon prof d'histoire puisse savoir ce que je fais de mes week-ends ou ce que je suis, ça me plairait pas du tout.
Il a compris, hein, il est pas loin, il a entendu.
Mais de toute façon, je fais attention, déjà j'ai qu'un réseau social et je fais très attention à ce que je mets parce que ça existe les personnes malveillantes qui se servent de ça contre vous, contre moi, contre tous ceux qui utilisent ça, enfin les réseaux sociaux, donc je fais très attention.
Emda, qu'est-ce que tu penses de ça toi ? T'aimes bien avoir des secrets, des choses ou que tu ne dis qu'à certaines personnes et dont t'as pas envie que ça soit rendu public.
Oui, mais du coup, c'est des choses qui vaut mieux faire dans la vie réelle, en fait, et pas en numérique. Si on veut être sûr d'être, entre guillemets, protégé.
Tu ressens le besoin, quelquefois, de te protéger des autres ?
Oui, parce que comme Thomas l'a dit, il y a beaucoup de personnes malveillantes.
Emda, justement, puisque je te tiens, tu vas nous dire ce qu'on va écouter ?
C'est Tricheur de Nekfeu et Damso.
Bientôt j'arrête tout ça, maman, bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à papa, entre bonhomme on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman, t'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie, demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman, bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à papa, entre bonhomme on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman, t'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie, demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Je change de vie, j'ai du mal à le dire à papa. Bientôt j'arrête tout ça, maman.
Ouais, t'as un compte certifié, mais t'as pas de followers, tricheur.
Les maisons disent sont des salopes, c'est pour ça qu'elles font des avances. Je ferai pas deux fois la même erreur. Demande ton cœur que j'écrase mon mégot. Ça toi que je pardonne, je fais pas tant de Niro. J'ai pris des grammes et j'ai perdu des kilos. T'assumes pas ta calvitie comme Nio. Ça fait trop de weed pour une seule buzz. Ça fait trop de bitch pour une seule queue. Ça fait trop de mort pour une seule vie. Ça fait trop de tort pour une seule fille. J'suis dans le bendo. Enfermé sur moi, je te salue pas, je suis pas courtois. Loin des malfrats et des bourgeois. Entre vie et mort sur la coudoua. J'entends sale nègre, ah ouais, je me trompe sec, glock, boum boum. Bang bang, tous les jours est un main event. Grand noir et dur comme un bois d'ébène. Trop de chagrin à l'intérieur. J'ai connu la guerre et la frayeur. Rupture de l'hymen, elle me fait de la peine. Je l'ai même pas baisé que je l'ai déjà ken.
Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Bientôt j'arrête tout ça, maman. Bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à baba. Entre bonhomme, on se devine. Bientôt j'arrête tout ça, maman. T'en fais pas pour mon avenir. Bientôt je change de vie. Demain je change de vie. Mes copines me taquinent, voilà l'acteur. Ma richesse intérieure dans mon laptop. Maman s'inquiète pour mes frères. Elle nous a vu grandir ensemble. Et certains finir l'octobre. Que des cobayes sur une piste étroite. J'ai grandi pareil. La première fois qu'ils te lisent tes droits, c'est quand ils t'arrêtent.
C'est quand ils t'arrêtent, ouais.
Notre succès, c'est pour tous les fils de pute de vigile qui nous ont mal regardés. Et quand j'étais petit, j'avoue, j'étais parfois jaloux des enfants que maman gardait. Ceux qui sont venus soulever les meubles, c'était pas les déménageurs. Séparation des ménages, avant que l'enfant devienne un jeune. Moussa passait 4 ans en placard, pour lui c'était sa dette majeure. Et tes rappeurs, ils parlent de quoi? C'est des beaufs, c'est des maîtres nageurs.
On s'est pas dans la bébinière.
Tu crois qu'on est là depuis hier? Tu parles à fond, tu bibis air.
Toujours au fond comme baby air.
Maman, j'étais sous gasoline. Mais je veux être un gars solide. Je veux pas voir mes gars sous lit. Non, 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 ça m'inquiète. On s'est pas quitté, on enquête. Compte certifié, mais personne te connaît. T'as pas le droit de tweeter en anglais. Le succès, c'est un moyen d'avoir des plavés. Mes gavards, ils pourraient te vendre une loque. Boum, boum, sur les traîtres, une main dans les fesses. Les keufs les font parler comme des ventriloques. J'ai plus l'ami dans la scar faible. La sœur de mon frère, c'est ma sœur. Chez nous, y'a pas de sac. Money comme dans Scarface.
C'était Tricheur de Nekfeu et Damso.
Interclasse,
saison 4,
sur France Inter.
Dernier reportage sous la forme d'une chronique judiciaire. Ça se passe au tout nouveau tribunal de grande instance de Paris, le plus moderne de France. Et à vol d'oiseau, il est à moins d'un kilomètre de votre lycée, le lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne. C'était le 18 avril dernier. La justice au quotidien.
C'était au milieu d'un après-midi où l'on a commencé par une affaire d'agression sexuelle. Elle a finalement été renvoyée à une date ultérieure. Une autre concerne un jeune homme d'origine étrangère qui vendait de la drogue, en l'occurrence du crack.
Et puis, il y a cette histoire d'un jeune de 19 ans, bipolaire, qualifié de danger ambulant, alcoolique et porteur d'une arme. Il était jugé pour une agression. Son avocat a demandé une nouvelle expertise psychiatrique. Acceptée par le tribunal, l'affaire n'a donc pas été jugée non plus ce jour-là.
Enfin, on a vu arriver un vieux monsieur, légèrement voûté, le teint de son visage un peu gris comme son costume. Une calvitie prononcée, l'air renfrogné.
Déjà, il n'entend pas la première question de la présidente. Un peu sourd également. Elle lui demande s'il veut être jugé. L'homme lui répond sur un ton sec.
Ah ben, si on peut pas faire autrement.
Michel est donc jugé pour un vol qui pourrait paraître banal. Un vol de sac à main en pleine rue.
Sauf que l'on découvre que Michel est un professionnel du genre troisième âge. Il ne choisit ses proies que si elles ont du mal à se déplacer, à se défendre. Il a déjà passé 20 ans de sa vie en prison pour une vingtaine d'agressions sur des dames âgées.
La dernière en date est née en 1932. Elle marche difficilement, courbée en deux, dans l'un des quartiers les plus chics du 16e arrondissement de la capitale, à Passy.
La présidente du tribunal raconte que Michel a commencé à la suivre. Mais il attire aussitôt l'attention des policiers qui l'avaient déjà vu traîner dans le quartier avec un comportement suspect.
Les policiers attendent. Ils voient alors la dame se diriger et entrer dans une agence bancaire, et Michel sur ses pas, avant de ressortir et de se poster à quelques mètres.
Après avoir retiré de l'argent, la vieille dame se dirige vers la voiture. Elle ouvre sa portière passager pour passer son sac avant de faire le tour pour prendre le volant. Quelques secondes suffisantes pour que Michel ouvre la portière et prenne le sac, avant de se faire passer les menottes direct.
Dans la salle du tribunal, l'un des juges assesseurs qui n'avait rien dit jusque-là commence à s'énerver.
En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais rencontré un délinquant aussi vieux que vous. Pourquoi vous volez? Et en plus, il ne manque que des vieilles dames. Mais pourquoi vous faites ça? Vous avez 76 ans, vous avez des petits-enfants, pourquoi vous n'allez pas plutôt vous occuper d'eux? Vous gagnez combien par mois, monsieur?
150 à 200 euros.
Et vous vivez à l'hôtel? Comment faites-vous pour payer?
Je fais des extras.
Et combien cela vous rapporte?
2000 à 2500 euros.
Le vieil homme justifie ses vols en série qui lui permettent de vivre à l'hôtel. Très arrogant, il explique que sa retraite ne lui permet pas de vivre, qu'on ne lui donne que 150 euros par mois.
Qu'il a en réalité fait exprès de se faire arrêter par les policiers pour qu'on l'entende enfin sur ses problèmes de retraite.
La procureure a demandé 18 mois de prison. Le tribunal l'a finalement condamné à 12 mois ferme avec un retour par la case prison. L'avocat de l'homme qui a passé sa vie à agresser les vieilles dames dit que ça sert à rien. Qu'à son âge, il lui faut surtout un vrai suivi et une meilleure pension.
Une chronique de Ruffin Ajavon, Andrea Dionisio, Alia Dramé, Justine Maestracci, Maudré, Tiziri Twil, Zeina Abou, avec l'aide d'Emmanuel Leclerc.
Merci Zeina. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
C'est effectivement vous qui avez accompagné ce groupe. Comment s'est passé déjà le choix du sujet ?
On a passé 4 heures ce jour-là à écouter différentes affaires. Alors c'est compliqué parce que évidemment des lycéens de seconde ne connaissent pas le vocabulaire. Les élèves se sont retrouvés avec effectivement des présidents, une procureure, des avocats et puis des accusés qui venaient, qui défilaient comme ça. Et donc l'idée à la fin c'était de savoir quelle histoire on allait choisir. Et donc on a choisi l'histoire de ce vieux monsieur. Tout le travail a été de savoir pourquoi cette histoire-là était plus intéressante que les autres.
Alors, plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Tiziri, déjà, quand vous êtes arrivé donc, dans ce nouveau tribunal, vous avez été impressionné. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Moi, j'étais impressionnée parce que j'étais jamais rentrée dans une salle d'audience ou dans un tribunal. Quand il y avait un juge qui rentrait, on devait se lever. Enfin, tout, comment ça se passait?
Et grand silence quand, oui. Quand la cour arrive. Ouais. Est-ce que tu aimerais, le fait d'avoir entendu ce reportage, est-ce que ça peut te donner envie d'être magistrat plus tard ou avocat pour défendre la cause de quelqu'un qui est accusé, Emda?
Non, c'est pas un milieu qui m'intéresse.
Quel est le milieu qui t'intéresse, toi?
Moi, c'est plus ce qui est santé sociale et ouais. La petite enfance.
Alors, on a bien compris que pour certains d'entre vous, le métier de magistrat ou d'avocat, c'est pas forcément ce que vous choisiriez. Thomas, par exemple, toi, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard?
Oui, j'ai clairement une idée. D'ailleurs, c'est grâce à ce projet que j'ai une idée. Ça m'est venu durant le deuxième trimestre de cette année. Je veux être journaliste.
Donc, ça y est, ta voix est tracée. Ouais, tu veux faire une école de journalisme?
Oui.
Et tu sais un peu si tu veux faire la presse écrite, de la radio, de la télévision?
Ça, je me suis
pas de la télévision. Il n'y aura plus de télévision quand tu auras fini tes études.
Qui sait, c'est pas un média mort. Hein.
Non, j'espère. Solène, comment est-ce que tu vois l'avenir? Pas forcément sur le plan du métier, mais sur le plan de la vie en général.
Je trouve que la vie en ce moment, c'est un peu comme un déchet parce que on voit que dans la mer, il y a beaucoup de déchets, que les gens jettent plein de choses par terre et il faut changer ça parce que le monde en ce moment, il est un peu comme un déchet, quoi. Et il faut changer ça. Parce que on voit, par exemple, sur les trottoirs qu'il y a plein de déchets, de cigarettes, plein de choses.
Et s'il y avait que ça comme déchets, Maya?
Je suis totalement d'accord avec Solène. Et du coup, aussi, il faudrait mieux traiter les animaux. Je suis toujours sur mon point de vue. Enfin, dans les années futures, ou peut-être moins manger aussi. Mais sinon, par rapport à mon métier, après, plus tard, pour l'instant, je ne sais pas encore. Comme j'aime bien lire, j'aime bien écrire. Peut-être quelque chose qui se rapproche, un métier dans l'écriture, la lecture, je ne sais pas encore.
Ouais, ou un métier en lien, par exemple, Solène, avec l'environnement, toi aussi. Ouais. Et vous, les garçons, Ilias?
Moi, j'aimerais bien travailler dans le commerce plus tard.
Ouais.
Et en revenant sur ce que dit Solène à propos des déchets, des cigarettes qui est par terre, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éboueurs. Et c'est ça le problème, c'est que comme ils sont mal payés, et comme tout le monde trouve ça sale de faire ça toute la journée, personne ne veut le faire. Du coup, personne voudrait ramasser et la terre restera comme ça.
Mais est-ce que tu ne crois pas aussi que s'il y a des mégots par terre, et par exemple, pour prendre l'exemple des mégots, mais il y en a bien d'autres, ils ne viennent pas tout seuls, les mégots. Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'éducation de ceux qui les jettent et qui pourraient ne pas les jeter?
C'est pas faux. Mais par exemple, dans la rue, on ne va pas trouver une poubelle précisément que pour les mégots. Du coup, personne ne va jeter ça dans une poubelle. Donc, il faudrait qu'il y ait un ingénieur qui trouve une idée pour mettre une poubelle pour mettre des cigarettes dedans.
Et pourquoi tu ne l'inventes pas?
Je ne sais pas.
Mais tu pourrais.
Faudrait pourquoi réfléchir.
Ouais. Tu voudrais un monde plus joli, plus sympa, plus vivable.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Adrien?
Moi, j'ai un peu peur avec ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que c'est fou ce qu'on peut faire avec la technologie qu'on a maintenant. On peut parler de la Chine où ils sont surveillés 24 heures sur 24 avec les caméras de surveillance qu'ils ne veulent ou qu'ils ne veulent pas. Et ils veulent instaurer des scores sur les personnes. Et moi, je trouve que faire ça sans vraiment demander la permission aux personnes, c'est un peu dégueulasse.
Vous êtes un petit peu en colère quelquefois de voir le monde tel qu'il est et vous avez envie de le changer en fait, non?
Oui.
Emda, on t'a pas encore entendu là-dessus. T'as envie de changer le monde?
Bah oui, mais c'est trop tard en fait. On peut pas vraiment réparer la planète. On peut peut-être améliorer les choses, mais on peut pas vraiment la réparer. Du coup, c'est un peu frustrant et décevant.
Ce qui est fait, Thomas, n'est pas réparable?
Non, c'est clair, parce que aussi il y a certains, par exemple, dirigeants politiques, la COP21 et tout, ça leur parle pas forcément, ils sont pas forcément investis dedans. Mais comme l'a dit Emda, c'est un peu trop tard. C'est ce qui est fait, et du coup, va falloir seulement essayer d'améliorer les choses.
Yanis, qu'est-ce que tu penses de ça?
Je suis d'accord avec lui, surtout sur la COP21, dans laquelle certains pays n'en ont pas grand-chose à faire. Certains pays, j'ai pas envie d'être nominatif parce que c'est pas cool. Les pays préfèrent faire leur business, se développer, et ils ont rien à faire des conséquences de ce qu'il y a sur la nature. Voilà.
Est-ce qu'il y a quand même des choses dans le, je sais pas, des trucs qui vous plaisent dans le monde tel qu'il est aujourd'hui? Ilias, t'as un grand sourire.
Ouais, le foot, c'est très très bien.
Ouais.
Tous les ans, on voit tout le temps des stades bien rénovés, tout beau. Voilà. Moi, j'aime bien ça.
Maya?
Je reste focalisée sur la nature, donc en fait, je vois pas de trucs positifs. Parce que même en histoire géo, on a regardé un documentaire sur l'Arctique. Et là, franchement, à cause du réchauffement climatique, il y a les bateaux qui arrivent. Ils détruisent tout, ils détruisent les habitats, des ours polaires, des phoques, des animaux qui sont là-bas. Tous les pays sont là à ramener leurs bateaux, à se battre pour du pétrole. Enfin, moi, je comprends pas.
Tu comprends pas?
Non. Ouais.
C'est la folie des hommes. Vous serez peut-être moins fous.
Peut-être.
Vous serez plus sage?
Peut-être.
Véronique Mélin et Thibaut Kazmarek, vous êtes donc les deux professeurs de cette classe, deux des professeurs qui avaient accompagné cette classe. Sérieux, le sujet là, c'est grave ce qu'ils viennent de dire. Moi, je trouve que ça nous remet sacrément en cause.
Oui, on va dire qu'ils sont très informés. Oui, on le constate avec vous là aujourd'hui. Hein. Ouais, enfin, j'étais pas
une surprise
consciente.
Pour vous. Ouais,
oui, ouais. À ce point-là, vraiment, je ne me rendais pas compte.
C'est vrai que je pensais pas autant de nos futurs que ça. Enfin, il y a un côté très, très, très nos futurs. Et c'est vrai que, dans le programme, par exemple, de géographie, on parle beaucoup d'histoire de développement durable. Mais je pensais pas qu'ils étaient dans cette idée vraiment de, on est foutus, quoi.
Alors, ils n'ont pas tout à fait dit ça. En tout cas, ils aimeraient que ça ne soit pas. Non, mais c'est vrai que l'insouciance, qui en général est liée à leur âge, là, elle n'est pas là.
Mais c'est vrai que, on a fait beaucoup de travaux aussi sur l'année d'information. Et je pense que quand on regarde les informations en ce moment, on entend beaucoup parler aussi des problèmes écologiques qu'on a. Et on a des enfants, des élèves qui sont quand même assez ouverts sur ce sujet et qui comprennent, en fait, les risques qu'on encourt.
Ils sont conscients, mais ils ne sont pas dépressifs, ça j'en témoigne, parce qu'ils sont quand même sacrément joyeux.
Ah oui, non,
quand
mais
ils
oui,
sont arrivés,
certain,
c'était une sacrée troupe, non?
Mais là, c'est vrai.
En fait, ils sont très vigilants, ils sont, je crois, bien informés. On va remercier tous les journalistes qui ont travaillé avec eux cette année, parce que ça a été une expérience évidemment incroyable de pouvoir voir comment l'info se fabrique, depuis la source jusqu'à aujourd'hui, les reportages. Sur un support, la radio, que les élèves ne connaissent que très peu. En tout cas, ne s'informant pas par ce biais-là. Maintenant, ils écoutent un petit peu France Inter,
mais
les parents
réjouit
aussi.
Ouais, c'est super.
Voilà, donc ça, c'est des graines plantées. Mais ils sont joyeux, vigilants, mais joyeux. C'est ça qui nous donne de l'espoir.
Interclasse, c'est fini pour ce soir. Merci à la classe de seconde avenir du lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne. Au revoir.
Au revoir.
Merci à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission, à Fanny Léonore Crouzet, coordinatrice du dispositif Interclasse, à Grégory Wallon qui a assuré la prise de son et à Muriel Pérez pour la programmation musicale.